Audiolib présente Ne le laissez pas entrer de Lisa Jewell, traduit de l'anglais par Adèle Roland-Ledem, lu par Claire Tefnin
et Nicolas Matisse.
Première partie.
Chapitre 1er. Novembre. La maison est extraordinaire. C'est une immense villa en stuc blanc de 3 étages, dont un grenier aménagé, avec de hautes fenêtres percées dans les façades avant et arrière qui offrent une vue traversante sur la mer. J'imagine qu'il a fallu abattre un mur pour créer un espace aussi dégagé dans une bâtisse victorienne et installer des poutres en acier dans le plafond. Un sacré budget. Tout ça pour donner au propriétaire un peu plus de lumière et de volume. Je ressens une pointe de jalousie inhabituelle. Ça ne me ressemble pas d'envier les autres. En général, je ne pense jamais à eux. Mais ce cas-là est complètement différent. Je coupe le moteur de la camionnette et reste assis un moment pour me préparer. J'aperçois une esquisse de mouvement par l'une des fenêtres de l'autre côté de la maison. J'enfonce une casquette de baseball sur ma tête et, ouvrant la portière, je distingue des voix étouffées. 4 voitures sont garées devant la maison. De toute évidence, la journée est loin d'être terminée. Je longe la camionnette et fais coulisser la porte latérale. Voilà, ma dernière livraison du jour. Un immense bouquet d'hortensia et de roses blanches dans un sac de présentation rose. On n'a pas lésiné sur les moyens. Sur l'enveloppe, je lis « Pour Nina Swan et les siens ». J'avance vers la porte de la maison, jetant au passage un coup d'œil discret par la fenêtre de la cuisine. Un petit groupe est attablé, des gens jeunes et moins jeunes. Ils boivent du vin et sont habillés de vêtements sombres. Il y a de la musique, des bougies allumées. Je remarque des œuvres d'art, des photographies et des illustrations accrochées au mur. J'aperçois une cuisine haut de gamme, aux meubles bleu nuit et rose, avec des reflets de laiton et de cuivre. D'imposantes ampoules rondes qui pendent de gaines dorées à des hauteurs variées, des plantes sur les étagères. Par la porte du fond de la pièce, je distingue de grands canapés en velours, une table de mixage, une affiche de Gorillaz. C'est la maison d'un homme de la génération X qui a fait les bons choix, qui a réussi dans la vie, qui a empilé ses briques l'une après l'autre, avec délicatesse et précision. Un homme qui a pourtant commis une erreur cruciale que sa femme et ses enfants paieront à tout jamais. Je continue mon chemin et je sonne à la porte.
Chapitre 2. Ash remercie le livreur, referme la porte et va déposer le bouquet dans la cuisine. Là, installé autour d'une grande table en bois où se côtoient verres tachés de vin, assiettes sales et restes gélatineux de canapé, se trouvent sa mère Nina, son frère Arlo, sa grand-mère, son oncle, sa tante, ses 3 cousins et sa meilleure amie. Tout le monde est fébrile, mais soulagé. Le pire est derrière eux, la journée touche à sa fin. Ash est maintenant en collant noir, sans chaussures, ayant remisé ses talons quand la majorité des invités a quitté les lieux. « C'est de la part de qui ?» s'enquiert sa mère d'une voix éraillée. Ash cherche la carte agrafée au sac rose pâle, la détache et l'attend à sa mère qui lui demande « S'il te plaît, lis-la, toi. » Elle sort un petit carton de l'enveloppe qui est de la même nuance vieux rose que le sac. Au verso, les contours d'une fleur y sont gouffrés, un relief qu'elle suit machinalement du bout du doigt. Derrière, elle lit quelques mots griffonnés dans une écriture peu soignée de fleuriste dont une tache d'eau a fait couler l'encre. « Nous pensons à vous. » Sincère condoléance, les tanneurs. C'est qui les tanneurs ? Sa mère soupire. Absolument aucune idée. Tu peux les mettre dans un vase. Ils sont tous utilisés. Nina soupire de nouveau et Ash comprend qu'elle ne doit plus aborder le sujet des fleurs aujourd'hui. Elle glisse le bouquet dans un vase qui en contient déjà un, dans une association saugrenue particulièrement déplaisante à l'œil, et rejoint sa famille à table. Son amie Ella remplit son verre vide de vin blanc et la jeune femme lui envoie un baiser. Il n'y a pas eu d'éclaircie de la journée, pas une seule, ce qui est ironique, car le père d'Ash était obsédé par le soleil. Il lui courait après partout dans le jardin, dans le monde entier. Il avait une lampe de luminothérapie dans son bureau pour les jours de grisaille. Il étudiait les prévisions météorologiques religieusement. Il insistait pour allumer le barbecue au moindre signe avant-coureur du printemps. Il avait choisi cette maison parce qu'elle était exposée plein sud et avait ses petits coins de verdure favoris pour en profiter, dont un en particulier qu'il avait surnommé Ibiza, où il pouvait